Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique qui vous donne accès à plus de 1000 salons d'aéroports LaunchKey et à des offres exclusives, vous propose Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, ce n'est pas tous les jours vendredi, donc profitez-en dans 30 minutes, c'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix et parmi les sujets qui ne vous laissent pas indifférents, il y a les poursuites judiciaires lancées cette semaine contre l'ex-président guinéen Alpha Condé, notamment pour assassinat et acte de torture. On nous appelle du Sénégal pour réagir au procès qui s'est tenu hier, procès de six sage-femme poursuivie pour négligence après la mort d'une femme enceinte de 9 mois. Des témoignages encore et toujours sur la flambée des prix des produits alimentaires, des réactions sur l'augmentation du SMIC au Bénin, le report du dialogue national au Tchad, l'inefficacité de l'état de siège dans l'est de la RDC. Voilà quelques-uns des sujets sur lesquels vous avez envie de débattre ce matin sur l'antenne de RFI. Vous aussi, vous souhaitez commenter l'actualité, rejoignez-nous, on vous attend, il y a encore un peu de place. 33 9 693 693 70, et comme tous les matins évidemment, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec Macky, soyez le bienvenu. Bonjour Macky.
Bonjour la radio qui nous parle et qui parle de nous.
Et qui vous donne la parole. Vous nous appelez de Conakry, vous êtes donc en Guinée. Vous avez des questions, Macky, sur le Togo et son président Fornia Simbé qui se pose en facilitateur dans la crise politique malienne.
Exactement. À la demande du Mali, le Togo a accepté de jouer les médiateurs entre le Mali et les institutions internationales et surtout sous-régionales. Comment expliquer le choix du Togo comme médiateur ?
Effectivement, bonne question que vous posez. Je reprends le verbatim, les propos d'Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères. Il s'est rendu cette semaine à Lomé. Nous avons sollicité le président Niasimbe pour faciliter le dialogue avec les acteurs régionaux pour trouver un compromis pouvant nous permettre de sortir de la crise. Bonjour David Baché.
Bonjour Juan,
bonjour Macky. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Comment expliquer le choix du Togo comme médiateur ?
Alors, pour le moment, et vous avez commencé de le dire, hein, on ne peut pas dire que le Togo a été choisi. C'est Bamako qui a sollicité le soutien de Lomé et Lomé qui a accepté de jouer ce rôle. Mais à ce stade, la CDAO, qui a déjà un médiateur, c'est le Nigérian Goodluck Jonathan, la CDAO n'a toujours pas souhaité réagir à cette offre de service, si on peut dire. Ceci dit, on peut effectivement se demander pourquoi le Mali a appelé le Togo à l'aide. Et là, la réponse est assez simple, c'est que les autorités maliennes de transition et les autorités togolaises entretiennent de très bonnes relations. Le communiqué conjoint publié mercredi soir parle même de rapport d'amitié. Depuis le début de la crise malienne, c'est vrai que le Togo fait partie des membres de la CDAO qui se montrent plutôt conciliant avec Bamako, plaidant pour une approche douce quand d'autres privilégient la manière forte. Ce n'est pas le Togo, par exemple, qui a porté l'imposition des sanctions économiques qui sont infligées au Mali depuis le mois de janvier. Et puis, il y a certains rapports personnels. Le ministre togolais des Affaires étrangères, notamment Robert Dussey, qui ne cache pas une relation directe avec le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta. Donc, en clair, le Togo entend jouer un rôle de premier plan sur la scène continentale. Il se mobilise pour ça sur le dossier malien depuis plusieurs mois, de manière discrète mais bien présente. Par exemple, le Togo fait partie du mécanisme de concertation qui a été mis en place par Bamako pour faciliter les négociations avec la CDAO. Donc la base est là et Bamako sait pouvoir compter avec le Togo sur un allié.
Oui, ce qui est à la fois un atout et un possible handicap.
Effectivement, parce que d'un côté, on peut estimer que ces bonnes relations entretenues par les autorités maliennes et togolaises sont de nature à faciliter les discussions avec la CDAO. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, si les négociations sont officiellement toujours en cours, eh bien le blocage est patent. Il y a deux semaines, le premier ministre malien de transition, Choguel Maïga, a même annoncé unilatéralement que la transition était prolongée de 2 ans d'ores et déjà et qu'il n'était plus envisageable de revoir cette durée à la baisse. Alors que la CDAO exige toujours que des élections soient organisées dans les 16 mois maximum. Donc, dans ce bras de fer, pour ne pas dire dans ce dialogue de sourds, eh bien, la médiation togolaise pourrait fluidifier, voire même relancer les échanges et permettre de sortir enfin de l'impasse. Mais le fait que le Togo affiche qui, clairement, sa proximité avec les autorités maliennes de transition est aussi à double tranchant, parce que ça peut aussi être perçu comme un manque de neutralité. Alors, est-ce que la CEDEAO acceptera de confier le rôle de médiateur, de facilitateur à un acteur qui affiche de tels liens avec Bamako? C'est toute la question à laquelle, donc, la CEDEAO n'a pas encore répondu.
Maki, a-t-on répondu quant à nous à vos questions?
Très satisfait, merci beaucoup.
Et bonne journée à vous à Conakry. Merci à David Bachet du service Afrique de RFI. Vous êtes au Togo, vous avez peut-être envie de commenter ce rôle attribué désormais au président Niasimbe, en tout cas rôle souhaité par Bamako. N'hésitez pas, vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Bonjour Messi Fidèle.
Bonjour Juan, bonjour Aurélien de Vernois et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, je vois que vous êtes très bien informé, Aurélien de Vernois, journaliste au service politique de RFI, il est avec nous. Bonjour Aurélien.
Tous.
Bienvenue. Je précise que Messi Fidèle est un fidèle de l'émission, c'est le cas de le dire. C'est un passionné par la vie politique française. Messi Fidèle, vous nous contactez très régulièrement pour poser des questions. On ne vous prend pas systématiquement à l'antenne pour laisser un peu de place aux autres auditeurs. En tout cas, vous, ce matin, vous avez des questions sur l'union de la gauche en vue des élections législatives du mois prochain. Fidèle.
La France insoumise, le Vert ainsi que le Parti communiste français ont conclu un accord pour les législatives du mois de juin prochain. Mmh. Et il y a pas longtemps, le Parti socialiste vient de rejoindre l'équipe, enfin, de rejoindre l'Union. Alors à ces propos, Juan, j'ai deux questions. Mmh. La première est celle de savoir, la gauche a-t-elle une chance de l'emporter aux élections législatives grâce à cette alliance? Et en cas de victoire, M. Mélenchon pourrait-il être choisi comme Premier ministre?
Ah, bonne question, effectivement. Bonjour Aurélien de Vernois, vous avez suivi jusqu'à tard dans la nuit le vote du Conseil national du Parti socialiste qui rejoint donc cette alliance de la gauche aux côtés de la France insoumise, des écologistes et des communistes. Cette alliance a-t-elle des chances de remporter les législatives?
Alors, je vais vous répondre, Juan et Messi Fidèle, comme répondrait Jean-Luc Mélenchon. Avec cette alliance, la gauche n'est pas sûre de remporter les élections, mais sans cette alliance, elle est certaine de ne pas y parvenir. Voilà, c'est un petit peu ça l'équation. La réalité, c'est que ça va être extrêmement difficile pour plusieurs raisons. Premièrement, il est compliqué de déloger une majorité aussi large que celle dont dispose Emmanuel Macron sans avoir remporté l'élection présidentielle. Il existe en France ce qu'on appelle l'effet 5e République, un vote quasiment automatique d'une bonne partie des électeurs pour le vainqueur de la présidentielle, afin que celui-ci puisse mettre en place le programme politique sur lequel il a été élu. C'est ce qu'il s'était passé en 2017, quand Emmanuel Macron, qui n'avait pourtant pas de parti structuré derrière lui, avait obtenu plus de 300 députés.
Oui, donc cette tradition rend difficile une victoire de la gauche qui, malgré son alliance, part assez affaiblie.
Oui, elle ne dispose dans l'Assemblée nationale à l'heure actuelle qu'une soixantaine de députés et il est plus facile de faire réélire des sortants que d'aller conquérir des sièges sur des circonscriptions détenues par la majorité. Mais le pari réussi de Jean-Luc Mélenchon de réunir derrière lui les principales formations de la gauche peut créer une dynamique électorale. Les sondages sont plutôt favorables au principe de l'union de la gauche et c'est sur cela et sur son score à la présidentielle que le chef des Insoumis se base dans sa revendication pour devenir Premier ministre. Sauf que les projections actuelles des sondeurs quant au nombre de sièges que pourrait obtenir la gauche donnent plutôt entre 70 et 150 députés au mieux pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, soit très loin des 289 sièges nécessaires pour disposer de la majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Alors imaginons tout de même, Aurélien de Vernois, une victoire de la gauche. On va répondre à la deuxième question de Messi Fidèle. En cas de victoire, est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera le Premier ministre?
Alors oui, très clairement, même si dans le système politique français, c'est le président de la République qui choisit et nomme le Premier ministre, mais Emmanuel Macron, en cas de victoire de la gauche, n'aurait pas le choix, tout simplement parce que c'est le deal conclu entre insoumis, communistes, socialistes et écologistes. Dans les communiqués communs présentés par les partis de gauche cette semaine après leurs négociations, il est à chaque fois précisé qu'en cas de victoire, ce serait Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre.
Messi Fidèle, une dernière question.
Oui. Exactement. En fait, et le président Macron, nouvellement réélu, s'inquiète-t-il de cette union et quelle stratégie il déploie pour la contrer?
A-t-il peur de cette nouvelle union de la gauche? S'il lit les sondages, je ne pense pas.
Oui, alors en effet, et puis je ne sais pas si de toute façon Emmanuel Macron est vraiment du genre à s'inquiéter, mais ce qui est certain, c'est que cette union de la gauche, c'est un caillou dans sa chaussure. La NUPES a de bonnes chances de le priver de certains députés dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Strasbourg ou encore Toulouse, et le chef de l'État a besoin d'engranger un maximum de sièges avec son propre parti, rebaptisé depuis hier Renaissance, pour ne pas trop dépendre de ses partenaires, le Modem et Horizon de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Depuis quelques jours, une offensive médiatique a donc été lancée par la majorité contre l'union de la gauche. Elle vise particulièrement le Parti socialiste, accusé de trahir son histoire et ses valeurs en faisant alliance avec la gauche radicale. Alors, pas sûr que cela marche vraiment. Tout d'abord parce que le PS a une longue histoire d'alliance, y compris avec des partis radicaux comme le Parti communiste des années 70. Et aussi parce que côté trahison, Emmanuel Macron peut difficilement accuser le PS de se vendre au plus offrant, alors qu'il a lui-même siphonné une bonne partie des élus socialistes pour composer sa majorité et son gouvernement en 2017.
Mais si fidèle, êtes-vous satisfait ? A-t-on répondu à vos questions ?
Merci beaucoup, merci à Aurélien Desvernois et à vous, Juan.
Et bonne journée à Lubumbashi, continuez à nous appeler, on ne vous passe pas à chaque fois à l'antenne, je sais que vous comprenez, il faut que tout le monde s'exprime, mais en tout cas vous êtes le bienvenu. Bonne journée donc à Lubumbashi en RDC, il est 10h21 ici à Paris, ce sont vos questions, 33 9 693 693 70, vous écoutez le journal de RFI, vous souhaitez un complément d'infos, eh bien on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre simplement en direct sur l'antenne de RFI. Moussa, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe motivée à côté de vous.
Et merci, et merci aux auditeurs motivés que vous êtes, Moussa. Vous avez des questions, vous, concernant votre pays et surtout la transition, donc, en Guinée.
Juan, dans un discours diffusé à la télévision guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya a proposé un délai de 39 mois, soit plus de 3 ans. Mmh. Alors, Juan, j'ai deux questions à ce sujet.
Allez-y, oui.
Pourquoi le gouvernement a-t-il besoin de tout ce temps ? Que compte-t-il mettre en place dans ce délai?
Oui, il y a un peu de bruit derrière vous, Moussa. Vous êtes certainement dans une rue bien animée. En tout cas, on va vous répondre avec Kabiné Fofana, analyste politique, directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques. Bonjour Kabiné Fofana.
Bonjour Juan et bonjour à Moussa.
39 mois, 3 ans et 3 mois, c'est donc le délai annoncé par le colonel Doumbouya avant la tenue des élections censées permettre le retour des civils au pouvoir. Pourquoi la junte a-t-elle besoin d'un délai aussi long?
Effectivement, le colonel Mamadi a annoncé une durée de mandat qu'il appelle médiane de 39 mois. Et il faut aussi rappeler que ce délai est récusé par une bonne partie de la classe politique, notamment les partis politiques les plus significatifs, ainsi que le Front National Défense de la Constitution. Alors, ce qu'on avance comme argument, c'est en gros la question de refondation de l'État qu'on adosse recensement général de la population, aux questions de recensement à caractère administratif, l'organisation des élections, donc on en aura les locales, les législatives et puis les élections présidentielles, sans compter aussi qu'on aura bien évidemment le référendum. Donc c'est un processus qui a été déclenché et présenté récemment, qui se décline autour de 10 points essentiels et il demande donc 39 mois et demi pour pouvoir dérouler ce chronogramme dont il faut rappeler est complètement refusé par une bonne partie de l'opposition, notamment l'UFDG qui demande uniquement que 15 mois.
Oui, effectivement. C'est vrai qu'on a une grande partie de la classe politique qui est vent debout, qui dénonce ce délai qualifié d'inacceptable, d'injustifié. 39 mois plus les 8 mois qui viennent de s'écouler, cabinet Fofana, ce qui fait 47 mois de transition en tout alors.
Mais alors, il y a justement une sorte d'énigme à ce niveau, parce qu'on ne sait pas effectivement à quand on va commencer ces 39 mois. Est-ce que ça a compté du 5 septembre ou ça a compté de la prestation de serment du président de la transition ou tout simplement ça commencera à ce mois de mai. C'est, ça reste quelque chose que l'on ne sait pas, mais toutefois, il y a qu'en Guinée, aussi bien dans l'opinion qu'au niveau des acteurs sociopolitiques, on trouve que ce délai est largement dépassé, qu'on aurait pu, par exemple, nettoyer les textes et faire la nouvelle constitution en 3 mois et dérouler le reste en 10-12 mois.
Oui, en tout cas, la réaction de la classe politique, nous la connaissons, puisque les uns et les autres se sont exprimés, notamment sur l'antenne de RFI. On verra maintenant quelle sera la réaction de la CDAO, qui depuis le début réclame une transition la plus courte possible. Merci infiniment, cabinet Fofana, analyste politique. Bonne journée, ainsi qu'à Moussa, qui nous appelait de Mamou, dans l'ouest de la Guinée. Le dernier auditeur de la semaine, pour les questions, c'est Vincent. Bonjour. Ah pardon, Vincent, innocent, j'ai innocent sur ma fiche et je lis Vincent, vivement que le week-end arrive. Innocent, pardon, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs.
Merci de nous appeler du Bénin, vous êtes tout près de la frontière avec le Nigeria, quelles sont vos questions?
D'accord, en fait, Pékin a annoncé la signature de l'accord militaire avec les îles sur le banc. Maintenant, la question est de savoir pourquoi les États-Unis sont-ils inquiets de l'installation d'une base militaire aux îles Salomon, alors qu'eux, ils disposent de bases militaires en Taïwan proche de la Chine.
Oui, alors c'est une bonne question que j'ai sous les yeux, heureusement, parce que je crois que le réseau téléphone était très mauvais. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris votre question, mais je me fais votre porte-parole, ne vous inquiétez pas. Pour vous répondre, on a contacté Jean-Pierre Cabestan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de recherche. Vous êtes directeur de. Je vous présente tout de même, directeur de recherche au CNRS et on vous doit notamment ce livre publié aux éditions Sciences Po Les Presses, La politique internationale de la Chine. Alors, Innocent disait effectivement que Pékin a récemment signé un accord de sécurité avec les îles Salomon, un archipel situé dans le Pacifique Sud, et visiblement, ça inquiète les Américains. Pourquoi ?
Parce que c'est dans une zone importante du Pacifique Sud, proche de l'Australie, proche aussi pour nous de la Nouvelle-Calédonie, et c'est la première fois que la Chine signe un tel accord avec un pays qui a rétabli des relations avec la Chine il y a maintenant 3 ans, en 2019. Et donc cet accord est assez vaste parce qu'il prévoit l'envoi de policiers en cas d'insécurité ou d'instabilité dans l'archipel, mais aussi il prévoit des facilités d'escale pour les bateaux de guerre chinois dans la zone, donc à proximité immédiate de l'Australie. À mon avis, cet accord est une forme de réponse de la Chine au pacte AUKUS, vous savez, qui avait été signé en septembre dernier entre l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, et qui prévoit la fourniture à l'Australie de 8 sous-marins à propulsion nucléaire. Et donc, la Chine voit ça d'un très mauvais œil parce que c'est une manière de rétablir un équilibre des forces, notamment dans le Pacifique, mais notamment autour de Taïwan. Et donc, pour, je dirais, se venger et surtout étendre son influence dans le Pacifique Sud, eh bien, la Chine a signé cet accord qui a évidemment des conséquences importantes pour la zone.
Oui, mais je me mets à la place de notre auditeur qui pose une question de bon sens. Les États-Unis menacent de riposter en conséquence si la Chine installe une base militaire au Salomon. Certes, mais notre auditeur se dit, les Américains, eux, ils ont pourtant une base dans la région à Taïwan.
Non, les Américains n'ont pas de base à Taïwan depuis l'établissement de relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine en 1979. Ils appuient Taïwan par la fourniture d'armement défensif à l'île, mais ils n'ont pas de militaires stationnés à Taïwan depuis la normalisation sino-américaine. Donc, non, je pense que évidemment, c'est une première. D'abord, ce que je voudrais corriger quand même, c'est qu'il n'est pas question pour la Chine, en tout cas à l'heure actuelle, d'établir une base militaire du type Djibouti, si vous voulez, au Salomon. Pékin peut bénéficier de facilités logistiques, facilités d'escale pour ses bateaux civils, mais aussi pour ses bateaux de guerre. Donc, c'est évidemment une décision, un accord qui a des prolongements géostratégiques et qui vise un peu à mettre à mal, si vous voulez, la domination américano-australienne du Pacifique Sud et puis aussi la position de la France dans cette zone.
Voilà, les ambitions militaires de la Chine dans cette région, dans cette zone du Pacifique Sud. Merci infiniment, Jean-Pierre Cabestan, de nous avoir éclairé, directeur de recherche au CNRS. Innocent, bonne journée au Bénin. Vous restez tous à l'écoute des RFI. Dans un instant, c'est le journal. C'est la dernière édition d'Afrique Matin et on sera de retour tout de suite après, dans 10 minutes, pour vous donner la parole. La libre antenne, 33 9 693 693 70.